Bonsoir à tous, c'est le Carnet Nomade, Colette Fellous, à la réalisation Vincent Deck, ce soir, Charlot. Charlot est un des plus beaux personnages du XXe siècle. Il est devenu d'ailleurs un mythe, non seulement dans l'histoire du cinéma, mais pour nous tous qui l'avons suivi depuis l'enfance, dans sa petite silhouette à la fois fragile et puissante, qui a toujours su s'adresser presque au monde entier, au-delà des langues et au-delà des pays. Charlot, on peut dire qu'il a inventé sa propre langue, avec son corps, avec ses yeux, avec sa gestuelle inimitable. Quand il a commencé à jouer pour Max Sennett à Los Angeles, Max Sennett qu'il avait vu jouer à l'American Music Hall et qui s'était promis de l'engager quand il montrait sa propre troupe, et c'est d'ailleurs quand il a créé la Keystone Company qu'il a fait appel à lui. Dans un livre inédit de Charlie Chaplin qui vient de sortir, Mon tour du monde, il se souvient de cette rencontre et du trac qu'il avait eu, car il y avait des rumeurs autour de Charlot. On disait qu'il n'aimait pas trop les comédies faites presque uniquement de courses-poursuites, alors que lui voulait créer un vrai personnage avec de vraies histoires. Max Sennett, écrit-il, me demanda un jour de me déguiser pour jouer dans le film de Mabel Normand qui se déroulait dans un hôtel. Alors, dans la garde-robe, j'ai choisi très vite un pantalon flottant, une redingote étriquée, un petit chapeau melon et une paire de chaussures beaucoup trop grandes pour moi. Je voulais que mes vêtements montrent un tas de contradictions. Et j'étais convaincue que d'un point de vue pictural, cette nouvelle silhouette se détacherait parfaitement sur l'écran. Et pour la petite touche comique, j'ai rajouté une moustache assez fine pour qu'elle ne cache pas mes mimiques. Mon allure alors enchanta tout le monde et même Max Sennett. Ce tour du monde, c'était juste après la sortie des Lumières de la ville, en janvier 31. Il a quitté donc les États-Unis, son pays d'adoption, et il est parti pour l'Angleterre, son pays de naissance. C'est un voyage qui dura 16 mois. Il a parcouru l'Angleterre, l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie, la France, l'Algérie, l'Espagne, le Sri Lanka même, Singapour, l'Indonésie et le Japon. Un curieux tour du monde qui était aussi pour lui le désir d'être ailleurs. Il avait besoin, disait-il, que soient ranimées ses émotions. Charlot, lumière d'un siècle, ange, vagabond, poète visionnaire, tout cela à la fois. Charlot chantait, admiré, adoré, respecté par tant de philosophes, de poètes, de cinéastes, d'historiens tout au long du XXe siècle. Tous d'ailleurs réunis aujourd'hui par José Moore et Daniel Banda dans un recueil intitulé Charlot, histoire d'un mythe, avec cette phrase d'Elifort extraite d'un long texte sur Charlot. Charlot, dit Elifort, est depuis Montaigne, Cervantes et Dostoïevski, l'homme qui m'a le plus appris, et je ne plaisante pas quand j'affirme cela.
Swing, little girl, swing high to the sky, and don't ever look at the ground. If you're looking for rainbows, look up to the sky. You'll never find rainbows if you're looking down.
L'histoire de Charlot, José Moore, est presque une histoire infinie. C'est l'histoire d'un mythe, comme vous l'avez écrit dans ce recueil de textes que vous avez choisi avec Daniel Banda, qui font le tour du monde. Hein. Tous les gens, tous les auteurs qui ont écrit sur Charlot, que Charlot a passionné. Et en même temps, c'est vrai que c'est une histoire infinie, parce que ça part de l'enfance peut-être, de la première vision de Charlot quand on était enfant. Et puis en fait, on peut passer une vie à regarder à nouveau les films de Charlot et ils sont inépuisables, ça, intemporels presque, vraiment comme un mythe.
C'est vrai que le mythe, ou disons que le rapport qu'on a à Charlot, de toute façon, il est lié à l'enfance. Il est lié à la fois à des souvenirs, ces films qu'on a tous vus enfants, parfois à l'école, au patronage certains, puisque c'est vrai qu'avant la guerre, c'est surtout au patronage que les élèves voyaient les films de Charlot. Et d'une certaine façon, chaque fois qu'on se replonge dans un film de Charlot, il y a quelque chose de notre enfance qui remonte à la surface et qui est à la fois l'ingénuité et le côté malin de l'enfance. Il y a ces deux côtés chez Charlot, et je crois que ce qui est vraiment, vous avez raison de dire, qui est à l'origine de Charlot, c'est vraiment cette sorte d'enfance retrouvée à volonté. Et puis cette enfance, d'une certaine façon, on la vit de façon différente au fur et à mesure qu'on vieillit. Et c'est vrai que quand on voit un film de Chaplin maintenant, même ces films qu'il a réalisés dans les années 10, on les regarde un tout petit peu différemment. Je veux dire que à ce moment-là, il y a quelque chose, une forme de nostalgie pour un siècle, puisque maintenant c'est le siècle passé, alors que nous on l'a découvert, Charlot, dans son siècle, et quelque chose qui, d'une certaine façon, a marqué à la fois notre enfance, mais qui a marqué, je dirais, l'imaginaire du XXe siècle. Il n'y a pas d'artistes qui ont suscité plus de textes que lui. Enfin, Charlot, il incarne le génie, je dirais, au même titre que Picasso, peut-être. Je dirais que s'il y avait deux figures comme ça à sortir de du dernier siècle, c'est bien sûr celle de Charlot et celle de Picasso, qui incarne deux formes de génie, je dirais, le génie populaire et puis l'artiste génial, mais qui finissent par se rejoindre, je dirais, par leur parcours. Il y a beaucoup de points communs entre Charlot et Picasso, ils sont la même génération, et puis même dans leur parcours, je dirais, d'hommes, dans leur relation aux femmes, dans leur relation au monde politique, la façon dont ils ont toujours été présents dans l'histoire, présents dans leur temps, il y a quelque chose de commun entre ces figures qui sont quand même les deux mythes de l'artiste du XXe siècle.
Oui, parce que Charlot, c'est vrai qu'il s'est inventé un personnage qu'il a fait évoluer, qu'il a emmené avec lui pour traverser l'histoire. Et à chaque fois, il le modifiait. Il avait un regard critique aussi sur la politique, sur tout ce qui lui arrivait. C'était une façon géniale de trouver un personnage qui pouvait affronter toutes les périodes, en fait.
Oui, à travers ce qui est fascinant, c'est son personnage du vagabond, il l'a trouvé assez vite, en fin de compte. Ce personnage, les pieds plats, la moustache, le chapeau melon, la canne de rotin, ont immédiatement composé l'image de Charlot. Et d'une certaine façon, ce qui a évolué, c'est la façon dont ce personnage s'est inscrit dans le temps, de la façon dont ce personnage s'est inscrit dans l'histoire. Et Charlot a évolué en même temps que l'histoire qu'il a vécue. Et d'une certaine façon, il y a toute cette noirceur, je dirais, le côté sombre du XXe siècle, qu'on retrouve, je dirais, presque en ombre projetée derrière la figure de Charlot. Parce que c'est vrai que Chaplin, donc, il a à la fois connu les années... Il a été pour la Grande Dépression. Il y a eu, bien sûr, la Seconde Guerre mondiale, avec des films comme... un film comme le Dictateur. Et puis après, quand il n'était plus, entre guillemets, Charlot, mais qu'il était Chaplin, on a vu les problèmes avec le macartisme. Donc tous les événements importants du XXe siècle, Charlot était là, et la figure de Charlot a renvoyé quelque chose. Et ce qui est fascinant, c'est que dans cette figure de Charlot, ce que renvoie Charlot, c'est toujours cette idée, qui est une idée politique, c'est-à-dire qu'il faut toujours se mettre du côté des plus démunis, il faut toujours se mettre du côté de ceux qui n'ont pas gagné. Il a toujours une fidélité à lui-même, c'est-à-dire que tout au long d'un siècle, il est resté fidèle au petit vagabond qu'il a créé dans les années 1914.
Oui, donc en février d'ailleurs 1914, il y a ce film qui est délicieux et Charlot est content de lui, ce petit bonhomme qui n'a pas sa place, qui va perturber en fait une course d'automobile pour enfants et qui se fait rembarrer par la police et qui revient toujours. Et c'est vraiment un film culte, hein, ça, Charlot est content de lui.
C'est assez fascinant que la première apparition du personnage de Charlot dans un film, donc à l'occasion de Charlot est content de lui, hein, donc qui est un film qui sort en février 1914. Dans ce premier film, on retrouve résumé tout ce qui va être, je dirais, le destin de Charlot. En gros, et quels que soient les films, en gros, Charlot, c'est quelqu'un qui essaye d'occuper le centre de l'écran, qui d'occuper le centre du monde et qui est rejeté à l'extérieur de l'écran. Et à chaque fois, il sort du cadre et il revient. Alors, il revient par en haut, il peut revenir par en bas, etc. Et le film, peut-être, qui caractérise le mieux cette façon d'entrer dans le cadre à chaque fois qu'on le chasse, c'est Charlot s'évade. Hein, où on le voit, il sort d'un trou, il sort par en haut. Et c'est ça, d'une certaine façon, le destin de Charlot. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui n'a pas sa place au centre du cadre et qui va toujours essayer de revenir, même si on le chasse. Et c'est fascinant, c'est quelque chose qui est assez hallucinant, que le premier film de Charlot nous montre ça. Il y a à la fois l'enfance, puisqu'il y a des courses d'enfants, il y a à la fois le cinéma, puisqu'il est filmé, et il y a ce personnage qui entre dans le cadre et qu'on essaye de chasser du cadre, et qui refuse de sortir du cadre. Et c'est son destin qui est déjà presque scellé, fixé dans ce premier film.
C'est dans les studios de la Kestone.
Tout à fait.
C'est tout le cycle de ces films.
C'est tous les films qu'il a réalisés à la Kestone qui sont ses premiers films. À la fois, il était acteur et il est devenu très, très vite réalisateur. Et il réalise à la Kestone. Il est présent, il apparaît dans 36 petits films et en une année. Et c'est là, d'une certaine façon, que se forge son personnage. Mais il y a une évolution, je dirais, que dans la qualité des films de Charlot. Après la Kestone, il passe au film SNE, c'est-à-dire 1915-1916, et je dirais quand même que presque l'âge d'or où Charlot atteint, je dirais, en termes de cinéaste, presque son génie, c'est les films qu'il réalise entre 1916 et 1917 à la Mutual, qui sont tous des chefs-d'œuvre, Charlot musicien, Charlot pompier. Il a trouvé l'essence de son personnage, et je dirais l'accord entre le personnage et le film. Et c'est important que d'avoir
et
l'esprit.
Le mythe aussi.
Et le mythe. C'est-à-dire qu'il y a une sorte que tout se cristallise, tout se rencontre. Le mythe de Charlot, la naissance du mythe du Charlot, c'est à la fois, il est inséparable du cinéma. Dans le mythe de Charlot, il y a à la fois la puissance d'un art nouveau et bien sûr la rapidité de diffusion de ces images. Le cinéma a été l'art le plus important du XXe siècle. Et donc cette rapidité de diffusion des images a contribué au mythe de Charlot. Je dirais que le deuxième aspect qui a contribué au mythe de Charlot, c'est bien évidemment, ça va de soi, mais il faut le dire, Charlot est un artiste exceptionnel. C'est un génie à la fois en tant qu'acteur, en tant que mime, c'est aussi un très 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 grand cinéaste. Mais ce qui fait l'universalité de Charlot, c'est aussi l'université du type, le vagabond, en qui les spectateurs d'entrée de jeu, qu'ils soient enfants ou adultes, ont reconnu, je dirais, pour reprendre, je crois que c'est l'écrivain espagnol de la Serna qui disait que Charlot, c'est le grand enfant malin de l'humanité. Et tout de suite, ils ont reconnu ça. Et puis, enfin, quelle que soit la génération, il rit. Et il y a quand même cette force unanime d'une émotion qu'est le rire. Et je dirais que le mythe de Charlot s'est aussi construit autour de cette émotion, cette émotion qui convertit la foule à une sorte de simplicité commune et naturelle, et une simplicité qui est cette simplicité de l'enfance. C'est du rire qu'est né le mythe de Charlot.
Bah oui. Et puis cette silhouette qui est déjà le personnage, en fait.
Tout à fait. Et d'entrée de jeu, c'est cette silhouette et le personnage. Et je crois qu'il y a aussi quelque chose qui apparaît, c'est un corps. C'est un corps du XXe siècle. C'est un corps nouveau, Charlot. C'est un corps qui est adapté au mouvement des machines. C'est un corps qui est adapté au mouvement du monde, à la mécanique du monde. Ce corps qui est le corps de l'ouvrier, du délaissé, mais qui, d'une certaine façon, d'un seul coup, alors qu'il était totalement passé au second plan dans les siècles précédents, ce coup occupe l'écran et a une façon de se bouger, a une façon de varier le rythme, une gestuelle qui sera une gestuelle qui porte en elle, je dirais, toute la mécanique à la fois machinique mais la mécanique sociale du XXe siècle.
Oui, quand il entre aussi dans la machine, quand il est pris dans l'engrenage de la machine.
Dans les temps modernes. Mais on voit bien qu'entre le corps et la machine, il fait corps avec la machine, et c'est aussi à la fois un corps-machine. Les théoriciens ou les cinéastes russes, que ce soit Eisenstein, que ce soit le grand cinéaste Kouletchov, magnifique, ils ont tout de suite vu en lui ce lien avec l'homme nouveau.
En 1945, Sergueï Eisenstein écrit aussi sur Charlot et plus particulièrement sur son regard. Le regard de Chaplin. regard capable de voir les enfers à la Dante ou les caprices à la Goya des temps modernes dans les formes d'une gaieté insouciante. Voilà ce qui émeut, ce qui intéresse, ce que l'on veut sentir. Quel regard porte sur la vie Charlie Chaplin? La particularité de Chaplin, c'est que sous les cheveux blancs, il a conservé un regard d'enfant, une capacité de réaction spontanée devant toutes les situations. De là vient cette liberté qui échappe à la chaîne de la moralité, cette capacité à voir la dimension comique de ce qui glace les autres. Voir les choses les plus atroces, les plus douloureuses, les plus tragiques, avec les yeux d'un enfant rieur. La faculté de les voir d'une façon synthétique, instantanée, sans les examiner d'une façon morale, sans évaluer, sans juger, sans condamner, à la façon d'un enfant qui regarde et éclate de rire. Voilà ce qui le met à part, le rend inimitable et le rend unique. C'est le caractère synthétique, instantané de ce regard qui donne naissance à la sensation du comique. Et cette sensation s'élabore et devient un concept. Quand le contenu de la scène est vraiment innocent, il lui donne un tour chaplinesque par son sens inimitable de la farce. Quand il exprime un drame individuel, il en fait l'un de ces drames humoristiques dont il a le secret, celui du mélange des larmes et du sourire. Aussi dans La Ruée vers l'or, par exemple, ce corps qui est pris entre la montagne et la terre friable, comme ça, et on a peur pour lui. Et c'est vraiment ça, l'équilibre entre le vide et le monde.
C'est un funambule qui est toujours sur un fil ouais. Et qui, même s'il est toujours, et c'est cet art du déséquilibre qui est très très très, très impressionnant chez Charlot. Alors c'est vrai, la scène, on le voit dans le défilé monter, où après il va se retrouver confronté à un ours dans la rue vers l'or,
et la maison qui est entre les deux.
Et je crois qu'on a ressenti cette instabilité d'un monde qui d'un seul coup allait devenir instable, cette instabilité sociale, on verra. En 1915, mais après là, la crise de 1929 va montrer aussi cette instabilité là et
oui.
Je dirais le corps de Charlot porte ça. Alors j'étais très étonné, c'est du rôle que joue notamment auprès des penseurs, des écrivains sud-américains, un film comme La Ruée vers l'or, à la fois comme un film politique. Ils ont très très bien vu qu'il y a dans La Ruée vers l'or à la fois une critique du capitalisme et beaucoup, notamment en Amérique du Sud, beaucoup d'écrivains ont vu, je dirais, dans le Charlot de La Ruée vers l'or, une sorte de frère de leur combat politique. Alors bien, il y en a d'autres qui, bien sûr, lui ont reproché d'être très riche et de continuer, enfin l'opposition entre sa vie privée et sa vie publique, qu'il a toujours poursuivi. Mais justement, ils disent, voilà, quelqu'un qui a de l'argent et qui met de l'argent pour faire un film au service des pauvres et au service des plus démunis. Très, très en avant sur son temps, La Ruée vers l'or.
Oui, il a quitté les États-Unis aussi. Il y a ce rejet des États-Unis parce qu'on l'a beaucoup critiqué. On l'a presque chassé des États-Unis quand il est allé à Londres.
Oui, on l'a critiqué très tôt, l'occasion du procès que lui a intenté sa première femme. Donc, on l'a attaqué sur sa vie privée. On l'a bien sûr attaqué un peu plus tard, dans les années 40-50, pour son compagnonnage avec le communisme. Et donc, quand il est retourné à Londres pour faire des films, puisque c'est d'une certaine façon, c'était plus Charlot, là, pour le coup,
il avait
abandonné le personnage de Charlot pour être Chaplin. C'est sûr qu'un film comme Un roi et New York est une satire d'une violence contre les États-Unis. Exceptionnel, mais c'est vrai que je dirais que l'intelligentsia ou les ligues un petit peu moralistes n'ont pas ménagé Charlot.
Et je ne sais plus qui dit parmi tous ces textes extraordinaires, où on voit aussi bien Henri Michaud, Louis Deluc, Jean Epstein, mais il y a aussi des philosophes comme Anna Arendt, il y a des écrivains comme Albert Cohen. Quand on voit tous ces textes, on comprend aussi comment il a pu fasciner des gens très différents, de disciplines très, très différentes.
Oui, parce que ne serait-ce que j'évoquais tout à l'heure les problèmes qu'il a rencontrés, mais avec la presse conservatrice américaine. Et donc, en 1927, il y a les surréalistes qui, dans un manifeste collectif « Hands of Love », prennent la défense de Chaplin dans le procès que lui intente sa jeune épouse Lita Gray. Et dans ce manifeste, Aragon, et il y a Breton et tous les signataires de la révolution surréaliste, s'attaquent au puritanisme et à une sorte de ce qu'ils appellent cette codification imbécile de l'amour. Et ils opposent à cette codification imbécile de l'amour le génie de Charlot, hein, qui pour eux, pour les citer, sert à signifier le monde, à signifier au monde la vérité morale que la bêtise universelle obscurcit et tente d'anéantir. Et puis, Charlot aussi, pour des poètes comme Henri Michaux, c'est quelqu'un qui est une sorte de manifeste des temps modernes. Pour de nombreux écrivains, ils voient, c'est Henri Michaux qui dit ça, ils voient en Charlot la révélation de l'âme moderne. Révélation, c'est-à-dire une âme moderne dont la gestuelle, dont le comportement, dont les ratages expriment l'inconscient et le devenir de notre époque. Ce n'est pas non plus un hasard si le premier poème publié d'Aragon est un poème sur Charlot sentimental, et qui, d'une certaine façon, a tout de suite compris que Charlot, c'était la poésie au cinéma. Mmh. Ponge a écrit un texte magnifique, Jacob a écrit des textes.
Umberto
Sabat, le très très beau texte d'Umberto Sabat. Et ils ont très vite senti que derrière Charlot, voilà, Charlot a valeur de manifeste. Hein. Il a quelque chose, il est à la fois, c'est ce que disait Cerna, c'est un moment historique de l'humour de cette planète. Il dit ça en 1924, 10 ans à peine après la première apparition de Charlot sur les écrans. Et puis, il y a aussi des philosophes qui ont vu en Charlot l'expression cinématographique d'une pensée. Quelqu'un comme Siegfried Krakauer dit justement que Charlot incarne une représentation de l'humain puisée à des sources presque ensevelies.
Lui qui dit aussi le plus faible qui va sauver le monde, voilà, qui fait bouger le monde.
Qui fait bouger le monde. Et puis, à la fin, on a vu dans Charlot une sorte de produit de la ville moderne, de l'ardeur moderne. Et ce dont on n'a pas parlé aussi, qui est quand même quelque chose d'assez étonnant pour marquer ce XXe siècle, c'est la ressemblance entre un des plus grands génies du XXe siècle et le plus grand monstre du XXe siècle, cette ressemblance avec Hitler, qui est quand même quelque chose de fascinant.
Et dictateur.
Mais bien avant le dictateur, c'est-à-dire en 1934, Walter Benjamin écrit un texte où il compare la féminité de Charlot à celle de Hitler. C'est vrai que beaucoup de gens avaient noté, Lorca par exemple, avait noté cette féminité de Charlot.
Il y a un petit film d'ailleurs où il est
déguisé en femme, exactement. Et il comparait la féminité de Charlot à celle de Hitler.
Le visage adorable. Hein,
exactement, il aimait bien ça d'ailleurs. Et puis enfant, dans le musical, il incarnait souvent des rôles de personnages de femmes. Et ce que dit tout à fait justement Benjamin dans ce texte sur la virilité diminuée de Hitler, donc il dit voilà, la vérité diminuée de Hitler trahirait une sorte d'esthétisation perverse de la politique, alors que la féminité de Charlot témoigne, elle, de la politisation du corps de l'acteur, et ce corps qui ferait sien l'aliénation sociale de ses contemporains. Donc, ce qu'il y a dans la féminité de Charlot, c'est aussi de prendre sur lui, sur ce corps, entre les deux, ce corps féminin, toute l'alignation du siècle. Mais ce qui est fascinant, c'est la ressemblance, même dès avant le dictateur. Et cette ressemblance étrange entre ces deux personnages qui sont le pôle solaire du XXe siècle et le pôle le plus sombre, le plus atroce du même siècle. Quoi.
France Culture, Carnet Nomade, Colette Fellous.
Suite de ce voyage autour de Charlot. C'est un texte de René Crevel de 1924 qui s'appelle « Bonjour Charlot ». Lorsque tu es né, ou plutôt, ce qui d'ailleurs revient au même lorsqu'on s'est aperçu que tu existais, on avait vraiment besoin de toi. Mais on a ri de ton accoutrement avant de rire de ton visage. Puis les clairvoyants ont compris leur cruauté. C'est ta tristesse, en effet, qui divertit. Charlot, avec la nostalgie de quel impossible paradis, ta canne à la main, vas-tu si pressé ? Au réveil, chaque matin, les barreaux du lit te rappellent ceux de la cage dont tu crus t'évader la veille au soir. Charlot s'évade ? Non. Charlot ne s'évade pas, ne peut pas s'évader. C'est toujours la même chose, mon pauvre vieux. Tu es prisonnier des femmes, des paysages, de tes vêtements, de ta mélancolie, de ta pitié, de ton art de faire rire. L'art de faire rire ? Tu as surtout la volonté de faire rire, et tu es très intelligent, tu veux avoir raison des êtres et des choses dont tu es l'esclave. Et pour être sûr d'en rire, tu ris de toi, tu fais rire de toi. C'est pourquoi l'on parle de ton humour. Somme toute, tu n'es pas trop à plaindre, l'humour est à la mode. On fait des enquêtes. Qu'est-ce que l'humour ? Un parti pris comme un autre, un parti pris comme ta silhouette, tes chaussures, ton pantalon, ton melon ? Oui, vois-tu ? Ceux qui savent à quoi s'en tenir parlent de l'humour de Chaplin. Jamais ils ne parleront de Charlot tout court. Bonjour Charlot. C'est un grand plaisir de vous recevoir tous les deux, Charlie Sisto-Varis. Vous êtes le petit-fils de Charlot, Charlie Chaplin. Et vous êtes avec Kate Guyon-Vard. Vous vous occupez tous les deux de l'association Chaplin, le bureau Chaplin plutôt. Et vous êtes la mémoire, on peut dire, à la fois vous, Charlie, une mémoire familiale. Et puis Kate, vous êtes aussi, vous avez recueilli toute, voilà, toute l'histoire de Chaplin.
Toute l'histoire, oui, enfin, l'histoire c'est ce qui me plaît le plus, mais c'est quand même, on gère les sociétés aussi, donc on travaille beaucoup.
Dans le monde entier
en fait. Dans le monde entier, on gère les droits de ses films et de son image dans le monde entier. Donc on a le grand plaisir également de gérer les archives et l'accès des chercheurs aux archives et d'y mettre le nez de temps en temps dès qu'on peut. Et c'est pas, malheureusement pour moi, en tout cas, Charlie, je sais pas, c'est pas le plus gros, la plus grosse partie de notre travail.
Charlie, ça doit être vraiment quelque chose de central aussi dans votre vie, d'être le petit-fils de Chaplin, non ?
Oui, un peu malgré moi. Hein. Mais c'est vrai que ça m'a donné toutes sortes d'opportunités dans ma vie, même si je ne m'étais jamais destiné à une carrière ni de comédien. Mais c'est vrai que ça m'a permis de participer à un spectacle de Béjart, qui était un spectacle hommage à Chaplin. Et puis maintenant, de travailler pour lui.
Vous avez joué dans ce...
Oui, voilà, j'ai joué avec ma tante. On jouait un peu nos propres rôles. Le fil de l'histoire étant qu'on cherchait l'un et l'autre un danseur capable d'imiter Charlot, la conclusion étant évidemment qu'il était inimitable. Mais bon, c'était pour Béjart l'occasion d'évoquer un peu tous les différents univers de Chaplin, les Bathing Beauties, les Policemen, ouais. Etc.
Et justement, dans ce livre Mon tour du monde, qui est un inédit qui paraît aujourd'hui aux éditions Le Sonneur, où Chaplin raconte son tour du monde à un moment pendant un an, il a fait le tour du monde. Il raconte aussi comment, au début, quand Max Sennett l'a embauché, il voulait, lui, être plus que juste faire des courses-poursuites et tout. Il voulait vraiment être un personnage, créer un personnage déjà. Il voulait être plus que ce qu'il y avait à l'époque, déjà.
C'est-à-dire que, très tôt, l'aspect un peu mécanique des gags le frustrait beaucoup. Dès les premières prises, il s'était donné beaucoup de mal pour incarner un personnage. Et quand il a vu au montage que les scènes qu'il considérait, lui, les plus drôles étaient coupées pour satisfaire un peu aux exigences de la Keystone, il a tout de suite voulu s'emparer de la caméra. Et Chaplin a tout de suite compris qu'il fallait qu'il y ait une forme d'empathie vis-à-vis du personnage, pour que le public s'identifie. Et ça, je crois que ça vient de sa pratique avec Carnot, donc, qui était un spectacle de music-hall.
Oui, c'est là qu'il a fait commencé, c'est là que Max Sennett l'a vu d'ailleurs, l'a découvert, hein, c'est dans ce music-hall.
Oui,
là,
il l'a vu dans un spectacle apparemment, mais Chaplin a été pendant 10 ans de sa vie dans le théâtre anglais et ensuite en tournée aux États-Unis pendant 2 ans, où il était complètement imbibé des spectacles des autres, des acrobaties des autres, les jonglages, ouais. La musique, le monde de scène de cette époque-là, et il a réussi... de manière incroyable, parce qu'ils étaient plusieurs à passer du théâtre au cinéma à cette époque-là. Mais Chaplin a réussi à prendre tout ce qu'il avait vu et envié et pratiqué en même temps, et à le mettre dans ce nouveau milieu du cinéma chez Sennett, où j'ai cru comprendre au début, il était tellement content d'être appelé pour faire du cinéma parce qu'il voulait faire de la tragédie et des rôles dramatiques. Oui. Donc il était déçu de savoir qu'il allait jouer avec les Keystone comédies. Mais il a quand même su intégrer tout ce qu'il voulait, lui, pour incarner ce personnage qui, finalement, était et tragique et comique, ouais. À sa guise, à sa façon, à merveille.
Et voilà, le personnage s'est incarné comme ça, presque instantanément, sans qu'il le cherche vraiment.
Oui, c'est ça qui est génial. Il a attrapé, il a eu une...
Oui. Et quand il le décrit à...
incroyable.
Et quand il le décrit à Sennett, il dit que c'est un mélange entre un gentleman, un poète, un vagabond qui n'a aucun plan, qui n'est pas méchant, mais qui n'hésite pas à donner des coups de pied dans le derrière. Enfin, et vraiment, alors bon, après, c'est écrit a posteriori, donc on se demande aussi à quel point lui...
Il savait ça déjà.
Oui, bon, peut-être que c'était pas aussi précis dans sa tête. Mais ce qui est intéressant, c'est que il dit aussi que ce costume, enfin ce masque, révèle chez lui une personnalité qu'il ne connaît pas, comme s'il était habité par son personnage.
C'est ça, comme si le personnage de Charlot était plus lui que Chaplin, en fait. Comme s'il avait dominé, mangé, dévoré, comme s'il le guidait.
C'est vraiment le personnage qui prend le pas sur son auteur. Ouais. Ouais. On a l'impression que, après Le Kid, donc après son premier long métrage, on sent qu'il a un peu envie de prendre la tangente et de s'essayer au cinéma tragique. Donc il fait l'opinion publique à Woman of Paris. Malheureusement, c'est un flop public, c'est un succès critique, mais ça ne marche pas parce que le public attend de voir Charlot. Donc il est contraint de remettre le costume. Alors on se demande à quel point il aurait aimé s'en séparer. Charlot a mis trois ou quatre films avant de vraiment mourir. Faire la séparation, il a fallu faire Le Grand Dictateur, où il se dédouble, et ensuite Monsieur Verdoux, qui est un peu l'envers de Charlot, et même dans les Limelight, les Feux de la Rampe, c'est encore Charlot qui persiste dans le clown. C'est vraiment, ils sont...
C'est déchirant, ce film.
Ouais.
Limelight, c'est déchirant, et on retrouve dans tous les brouillons pour cette œuvre que nous avons dans les archives, on retrouve des descriptions de l'enfance de Chaplin lui-même. Oui. On comprend d'où est venu ce film. Quand on regarde les notes, il y a des scènes où il dit, par exemple, Calvero était tout seul dans des troupes de grands, dans des villes dans le nord de l'Angleterre. Les adultes lui proposaient de temps en temps de sortir, boire un coup, mais ça le gênait d'être avec eux, il ne voulait pas les embêter, et donc il avait pris le goût de la solitude. Et enfin, il y a énormément de descriptions qui me touchent beaucoup, parce que je ne me rendais pas compte, avant de lire tout ça, à quel point Limelight était son histoire.
Voici un texte de Fernando Vela de 1928. Ça s'appelle « Si un ange descendait sur terre ». Un vagabond est un être qui s'est égaré dans le monde. Charlot est un vagabond parce qu'il s'est égaré dans ce monde. Il vivait dans un autre, différent. Mais un jour, sans se rendre compte, il entrebâilla une porte et il est tombé, faisant une fameuse entrée de clown dans un monde avec moins de dimensions, où les miroirs ne peuvent pas être traversés, où l'on trébuche à chaque pas. Cette maladresse, qui est la sienne, révèle ici une agilité, une transparence, une incorporéité antérieure, comme l'oiseau dans une chambre. Il se cogne contre le plafond, contre les vitres, il recherche précipitamment des angles, évasion toujours ratée. Charlot est un raccourci qui commence de ce côté du monde et finit de l'autre côté. Dans sa misère, il est d'une pureté incorruptible. Il est protecteur, tutélaire. Il est devenu astucieux, mais son astuce est celle des innocents traqués. Son croc en jambe est le jiu-jitsu des anges. On ne peut pas oublier non plus José Moore, tout le lien avec Le Kid, hein, Charlot et Le Kid, qui reste un des plus beaux films du monde, on peut dire.
Oui, alors le Kid, donc, c'est un film qui date de 1921. Bien évidemment, là, dans un film comme Le Kid, il y a le souvenir très, très fort qu'a Charlot de son enfance.
Oui.
Hein, cette enfance de misère qu'il a très, très bien racontée dans son autobiographie. Et bien évidemment, je crois que la vision à la fois profondément humaine, mais quand on dit ce mot qui est un peu galvaudé, c'est être humain, qu'est-ce que c'est qu'être un être humain? Ça ne va pas de soi d'être un humain, et c'est quelque chose qui se gagne tous les jours. Je crois que cette profonde humanité qu'avait Charlot et qui d'une certaine façon est constitutive de son génie et du mythe qu'il représente, cette humanité-là, Charlot, je dirais, l'a puisée, l'a forgée dans ce lien très fort qu'il a toujours eu avec son enfance, qu'il a eu avec sa mère. Lui est dans un film comme Le Kid, qui est un film qui nous touche au plus profond de ce que nous sommes, de plus profond de ce qu'on peut avoir, du rapport à l'enfance, du rapport au fait de la question de la maternité, de la paternité. Ça nous touche à la fois maintenant, c'est un film qui me touchait comme enfant et qui maintenant me touche peut-être autant ou plus en tant que parent. C'est ça qui est fascinant.
Oui, on a besoin presque de ce petit vagabond qui... Voilà, qui a traversé toute l'histoire et qui résiste. On a presque besoin aujourd'hui d'une figure comme Charlot.
Oui, parce que de toute façon, malheureusement, quelle que soit l'époque, il y a toujours des gens qui sont faibles, il y a toujours des gens qui sont démunis, et on a toujours besoin de quelqu'un pour être leur porte-parole. Voilà, il y a quelque chose de chez Charlot qui est, c'est ce que disait l'écrivain péruvien César Vallejo, qui parlait de Charlot en disant que c'est le suprême poète de la misère humaine. Et tant qu'il y aura de la misère, tant qu'il y aura des gens qui seront démunis, qui seront rejetés, bien évidemment, la figure, le mythe de Charlot aura un sens. Et les gens, non seulement les enfants, mais les gens qui souffrent, retrouveront dans Charlot à la fois cette innocence de l'enfance et aussi ce combat. Il ne faut pas oublier cette dimension politique de Charlot. Chaplin était quelqu'un qui était très intéressé par la politique. Il avait une conscience politique très profonde. Il savait d'une certaine façon qu'il avait un pouvoir, qu'il avait un pouvoir de rendre les gens heureux, qu'il avait un pouvoir de rendre les gens fiers de ce qu'ils sont. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est pratiquement inné chez lui d'entrée de jeu. Il a eu cette conscience-là.
C'était la douce d'ore, j'ai notre socapore, j'ai notre site avore, j'ai la coulette à toi. La spinage en la bouchon, si grette pote bello, si raquiche pas que l'étau, j'ai la coulette à toi.
Et j'aime beaucoup aussi quand il fait le timide, justement, quand il prend ses petits airs, le visage comme ça et les mains, les deux poignets qui supplient presque ou qui s'excusent. Il y a cette façon aussi d'être entre le muet et le parlant avec cette chanson extraordinaire, la chanson sans parole, où il a ce petit air aussi et puis tout à coup il invente une chanson parce qu'il perd les paroles, vous vous souvenez, qui étaient dans ses manchettes.
Ça, manchettes. C'est dans les temps modernes. Donc Chaplin a été un de ceux qui s'est le plus férocement battu contre l'arrivée du parlant. Imaginez un film comme Les Lumières de la Ville qui réalise en 1931 alors que le parlant arrive en 1927. Voilà, en 1931, il refait un film muet. Et puis, donc en 1936, il réalise Les Temps modernes. Et dans Les Temps modernes, les seuls sons qu'on entend, ce sont des sons de machines, des sons, je dirais, du patron, de ce qui exerce le pouvoir. Et puis, à ce son qui donne des ordres, il y a cette première fois que l'on entend la voix de Chaplin, dans cette sorte de sabir qu'il inventait par lui-même. Et la première fois que Charlot parle, il ne parle pas, il chante. Hein, et il faudra attendre, et ça c'est ce qui est aussi très 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 beau. Donc c'est la première fois qu'on entend la voix de Charlot, mais en une sorte de langage, pour le coup, universel, encore une fois, parce qu'il était très très sensible à cette dimension-là. D'une certaine façon, Les Temps modernes, c'est peut-être le dernier film avec Charlot. Puisque qu'en 1940, avec le dictateur, ce n'est plus tout à fait Charlot, c'est le barbier juif. Mais là, pour le coup, c'est à ce moment-là de l'histoire du monde, avec le discours final, c'est-à-dire qu'un discours qui traverse le temps, qui traverse l'espace. Là, pour le coup, c'est plus Charlot, c'est Chaplin qui prend la parole pour prononcer ce texte, qui est un texte magnifique, qui donne le frisson. Et voilà, c'est plus Chaplin, c'est plus Charlot, c'est Chaplin qui prend la parole. Et là, pour le coup, il prononce un discours où il exprime, entre guillemets, sa vision la plus profonde de ce que doit être pour lui l'humanité. Mais quand il prend la parole, il n'est pas que ça.
Even now, my voice is reaching millions throughout the world. Millions of despairing men, women and little children. Victims of a system that makes men torture and imprison innocent people. To those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed. The bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass and dictators die. And the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish. Soldiers, don't give yourselves to brutes. Men who despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think, and what to feel.
France Culture, Carnet Nomade, Colette Félous.
C'est la suite de ce voyage autour du mythe de Charlot avec Kate Guyonvard et Charlie Sistovaris, le petit-fils de Charlot. Dans mon tour du monde, quand il raconte, il quitte donc les États-Unis et il va faire un grand tour du monde, un peu partout, jusqu'au Japon, Java, Bali et toute l'Europe. Il dit que quand il arrive en Angleterre, donc le point de départ c'est l'Angleterre, il dit « j'ai eu besoin de revenir en Angleterre pour faire revivre mes émotions ». C'est comme si le cœur de ses émotions était là, en Angleterre.
C'est-à-dire que son enfance a nourri, inspiré toute son œuvre. Charlot, c'est Chaplin, enfant, quoi.
On vous l'a raconté, Charlie, dans votre famille
Non, on ne m'a pas raconté son enfance parce que je n'ai pas vraiment eu d'écho par le biais familial.
Ouais.
Je connais mon grand-père comme un personnage public, un membre de ma famille. Parce que
vous avez quelques images quand même, en vrai, vous étiez tout jeune.
Oui, il est mort quand j'avais 6 ans. C'était un vieux monsieur très diminué qui était sur sa chaise roulante
qui ne parlait plus.
C'était au manoir de Ban, donc c'est un domaine absolument sublime sur les côtes du lac Léman et qui voilà avec les Alpes en face, des arbres bicentenaires, un espèce de paradis pour enfants. Et je vois mon grand-père et ma grand-mère descendre le long de l'allée, bras dessus. Ce sont des images qui se sont imprimées dans mon esprit, qui parfois se confondent un peu avec celles des films.
C'est-à-dire qu'à la fin des films, quand on les voit partir.
Oui, voilà, je me demande si c'est Ouna ou Paulette Godard qui est en train de Charlot Chaplin. Enfin, il y a des confusions qui se font. Je me souviens aussi d'avoir invité des petits camarades de mon école parce qu'ils étaient au courant. J'étais le descendant du grand personnage qui habitait là dans ce château là-haut. Ils étaient venus à 4 ou 5 et mon grand-père passait la plupart de son temps assis sur un fauteuil dans le boudoir où il regardait la télé, il lisait un peu. Bon, souvent, il était endormi avec le chat sur ses genoux. Donc, on est arrivé sur la pointe des pieds. Il y avait juste sa chevelure blanche qui dépassait du dossier du fauteuil. Et l'un après l'autre, on est allé le toucher, repartir en courant, comme si c'était une sorte de totem. C'était pas le grand-père habituel qui vous fait sauter sur les genoux et vous raconte des histoires, malheureusement, parce qu'il a eu ses enfants très, très âgés.
Et justement, c'est dans ce manoir qu'il y aura le musée ?
Oui, c'est dans ce manoir. Les travaux ont commencé. Il y a donc la maison, le manoir où il y a certaines pièces qui restent plus ou moins à l'identique, comme Charlie les aurait connues quand il était petit. Et il y a toute une grande partie, une nouvelle partie, un nouveau bâtiment qui parlera des studios Chaplin, de la création de son œuvre.
Et vous avez une date d'ouverture de ce musée, 2016, non ?
Oui, printemps 2016.
Printemps 2016,
Si tout va bien.
Spring is here. Birds are calling. Skunks are crawling. Wagging their tails for love. Spring is here. Whales are churning. Worms are squirming. Wagging their tails for love.
On a parlé aussi beaucoup de sa silhouette, la silhouette de Charlot, qui est tout un art, hein, qui définit bien le personnage, des gestes de Charlot, quand il fait le timide, quand il est embarrassé. Il y a aussi ce coup de pied, qui est vraiment la signature aussi de Charlot.
Oui, c'est dans un très beau texte d'André Bazin, qu'il publie en 1948, hein, qui s'intitule « Introduction, une symbolique de Charlot ». Bazin, d'une certaine façon, essaye d'analyser les gags elliptiques du personnage de Charlot, qui est toujours opposé à un monde hostile, un monde où les objets lui refusent, je dirais, leur fonction utilitaire, et où le temps, qui se réduit à l'instant, c'est ça qui est fascinant,
oui,
il y a une sorte d'urgence tout le temps, le pousse toujours à l'improvisation. Et ce qui symbolise pour Bazin Charlot, c'est ce geste, ce coup de pied en arrière qui exprime d'une certaine façon le souci de Charlot de ne rien laisser traîner derrière lui. Bazin dit, il est significatif que Charlot ne donne jamais de coups de pied en avant, même les coups de pied au cul de ses partenaires, il s'arrange pour les envoyer en regardant de l'autre côté. Et c'est toujours qui est fascinant.
Oui, oui. Moi, j'aime beaucoup aussi celui d'Eisenstein. Et il parle d'ailleurs aussi du coup de pied. Alors, comment il dit ? Il dit « Un coup de pied aux fesses dénoue le conflit dramatique. Il rend la liberté à Charlot. Et voilà le coup de génie, le plus beau final de tous les films de Chaplin. De sa démarche sautillante, Charlot s'éloigne dans la fermeture diaphragme. En suivant la frontière, un pied aux USA, l'autre au Mexique. Et ça, c'est la fin des films, quand on le voit disparaître comme ça et l'objectif se ferme. C'est aussi un grand bonheur en fait, de spectateur quand on voit ça. C'est comme un point final, mais qui disparaît. On sait qu'il va revenir dans d'autres aventures, mais il part en voyage encore.
Tout à fait, avec cet horizon qu'on voit, et d'une certaine façon, il y a toujours chez Charlot, même dans ces moments peut-être les plus pessimistes, il y a toujours un espoir. Il regarde ailleurs et il y a toujours quelque chose chez Chaplin qui fait qu'on peut surmonter le malheur. C'est quand même aussi un artiste de l'espérance. Dans un siècle qui était atroce comme le 20e, de pouvoir à la fois dire toute la cruauté, tout le mal, toute l'injustice de ce siècle, et en même temps d'être porteur de toutes les espérances de l'humanité. Et c'est ça, Charlot, je crois.
Oui, c'est vrai. Et puis, il y a des scènes qu'on n'oublie jamais qui sont aussi porteuses d'espérance, comme par exemple quand il mange les chaussures. Quand il mange, il n'a plus rien à manger. Et puis, il mange les chaussures, il est content. Dans la rue Everlord, il est content. Les lacets, les semelles, les clous. Il enlève comme des arêtes de poisson.
Cette capacité de... Là, pour le coup, c'est vraiment une invention poétique, cette façon de transformer le monde, de s'approprier le monde, de faire le monde sien. Et c'est ce qui est fantastique. Alors bien sûr, tous les cinéastes du burlesque ont joué sur le rapport aux objets, au monde. Mais à la différence de quelqu'un comme Keaton, par exemple, chez Chaplin, il arrive toujours, comment dire, c'est dans la lutte qu'il arrive à acquérir la complicité des objets. Il y a toujours cette tension entre lutte et complicité. C'est-à-dire qu'il s'approprie les choses en les détournant. Et je crois que c'est vrai que cette scène des chaussures qu'il mange est vraiment une très, très révélatrice de son rapport au monde, de son rapport aux objets. Et puis, vous vous rendez compte, c'est-à-dire que voilà, être réduit à manger, ce qui est peut-être le symbole de sa propre misère. Il y a toujours quelque chose, et ce qui est très fort, ça revient quand même à la question du corps. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on a à opposer à la violence, que ce soit la violence physique, la violence d'État, la violence sociale, on a simplement son propre corps à poser au monde. Et les gens les plus démunis, ce qu'ils ont, c'est simplement leur corps. Et c'est avec son corps que Charlot, dans ce déséquilibre, résiste au monde et résiste à l'injustice.
1924, apologie pour le cinéma, Jean-Paul Sartre, Charlot. C'est bien lui le roi du cinéma. Les autres sont des acteurs, on se les représente assez dans leur vie privée. Ils jouent bien, mais font effort pour bien jouer. On ne peut du tout se représenter Charlot si ce n'est dans un film. C'est là son élément. Il y vit, il s'endort à la belle étoile, se réveille au pied d'un policeman, se bat avec un voyou, adopte un gosse sans mère, non pas dans le monde chimérique de Harry Vollard, mais en toute vérité. Il naît avec le film et meurt avec lui. Il a créé un personnage, son personnage, le vagabond Charlot, légendaire comme le Macus ou le Daucénus des Atelanes. Il a créé un film, le film de la vraie misère. Je le compare au roman picaresque. C'est la suite de ce voyage autour du mythe de Charlot avec Kate Guyonvar et Charlie Sistovaris, le petit-fils de Charlot. Pour finir peut-être, dans mon tour du monde, il y a un très beau passage aussi sur la rencontre avec Etty, avec cette jeune fille qu'il a rencontrée. Et on a l'impression que c'est comme dans ses films. Il voit une jeune fille, il se sourit, ils sont timides tous les deux, et il lui demande de prendre son sac, après il la revoit, il attend.
Oui, oui. Et l'histoire de Etty est un peu tragique parce que c'est vraiment l'histoire d'un rendez-vous manqué. Ils ont une très brève aventure. Je crois qu'il n'a jamais été vraiment consommé, je ne me souviens plus des détails. Mais pendant de longues années, il a espéré la revoir. Et à chaque fois, les circonstances s'en empêchaient. Et finalement, quand il retourne à Londres, il est dans le train qui le mène à Londres, parce que le bateau a abordé à Southampton, je crois. Et là, il apprend par le frère de Etty qu'elle vient de mourir et qu'il ne pourra pas la revoir. Donc, il est sous le choc de cette nouvelle.
On a vraiment l'impression que c'est un petit synopsis.
C'est-à-dire que tous ces personnages féminins sont un peu des anges déchus.
Oui,
hein.
C'est ça.
Il y a toujours cette fragilité auquel il est extrêmement sensible, probablement parce que c'est le souvenir qu'il a gardé de sa mère, une jeune femme très fragile qui a fini par sombrer dans la folie. Donc il y a... Je pense cette espèce d'idéalisation des jeunes femmes.
Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses dans ces films qui sont liées à sa mère, même dans le Kid, hein, l'histoire de ce petit que la mère abandonne et qui retrouve après sa mère. C'est vraiment, on sent que cette enfance difficile qu'il a eue est aussi au cœur, hein, de son œuvre.
Oui, il a eu effectivement une enfance très difficile. Le premier chapitre de la tragédie de son enfance a eu lieu quand sa mère, qui était une chanteuse de music hall, a eu une extinction de voix pendant le spectacle. Et ils l'ont remplacée par le petit Charlie, qui avait 5-6 ans, je crois, et qui savait très bien imiter sa mère. Et donc le manager, comme le public, s'impatientait, commençait à siffler. C'était un public assez un peu éméché. Et donc ils ont envoyé le petit Charlie sur scène pour remplacer sa mère au pied levé. Et là, il a remporté un énorme succès. Les gens ont ri, lui ont lancé des pièces. Et ça a été... En même temps, le début de la tragédie, puisqu'elle a perdu son job. Ils ont connu ensuite la misère, la malnutrition. Sa mère est devenue folle. Il a fallu l'interner. Petit Chaplin était envoyé dans l'orphelinat. Il était, même à certains stades de sa vie, complètement livré à lui-même dans la rue, faisant des petits boulots pour survivre. Donc il a connu vraiment la faim, le déclassement. Donc c'est vraiment une enfance à la Dickens.
Il était avec son demi-frère Sidney, mais Sidney, puisqu'il était un peu plus âgé, était envoyé à la marine, enfin la marine des enfants, je ne sais plus comment ils appelaient ça. Et pour moi, la partie de l'histoire la plus poignante, c'est quand sa mère devient pour la xème fois folle et Charlie revient à la maison et quelqu'un lui dit « Mais ta mère a complètement perdu la boule, elle donne du charbon à tout le monde. » Et là, il est obligé, lui, de l'emmener à l'hôpital. Il l'abandonne à l'hôpital et on lui dit à lui, mais toi, tu vis où? Tu fais quoi? Il a dit, non, je suis avec ma tante, il n'y a pas de souci. Et là, vraiment, il est seul dans la rue. Pendant quelques semaines, il sait que Sidney revient, mais il ne sait pas tout à fait quand. Il ne peut pas le joindre, mais il a quelques semaines ou peut-être quelques mois tout seul dans les rues de Londres jusqu'à ce que Sidney revienne et avec un peu d'argent parce qu'il a gagné un peu de sous et il s'occupe de lui. Et puis, il raconte dans son autobiographie que sa mère, après, quand il retourne la voir avec Sidney, sa mère lui dit, mais t'aurais dû juste me faire une tasse de thé, tout se serait arrangé. Mais tout en sachant que c'était pas vrai, il devait savoir, parce qu'il avait connu longtemps dans des états plus ou moins faciles, limite. Enfin, je pense que ce genre d'histoire, c'est pour ça que pour moi, l'œuvre de Chaplin perdure encore aujourd'hui. Parce que ça vient d'un petit garçon qui a vécu tant de choses avant, qui les a gardées dans son esprit et dans sa souffrance.
Dans son corps aussi.
Dans son corps, oui. Dans sa vie de tous les jours. Il n'a jamais oublié Londres, sa mère, ce qu'il a vécu.
Et c'est cette fragilité qui le rend si fort aussi, c'est vrai.
Les Lumières de la ville a été tournée juste après la mort de sa mère et raconte dans son autobiographie comment il rend visite la dernière fois. Et elle est dans le coma, elle ne répond pas, il s'en va. Et sur le perron, il hésite et puis elle revient quand même la voir une dernière fois. Et là, elle se réveille et elle lui tend la main. Et elle lui dit « tout ira bien ». Et quand on pense à la fin des Lumières de la ville, quand la jeune aveugle reconnaît Charlot en lui prenant la main, on peut difficilement ne pas faire le lien avec cette scène. Et puis c'est la plus belle scène du cinéma au monde. Donc toute son œuvre, et je crois, tourne autour de ce lien perdu avec sa mère.
Et on ne peut pas oublier aussi cette danse des petits pains.
Oui,
quand il attend comme un rêve, on ne sait pas si c'est un rêve ou ces femmes qui l'attendent.
Oui, il y a ce rapport un peu aussi avec la folie.
Oui, c'est ça.
Il est toujours un peu à la frange de la folie. Il est toujours sur le fil tendu entre la raison et le délire total. Mais il est en équilibre, il reste toujours en équilibre. C'est ce qui fait tout le charme du personnage.
Tombe jamais, parce qu'il y a cette grande poésie aussi en lui, surtout sur son visage, sur son...
Cette scène de la rue vers l'or où il cuisine, il attend les filles, il a décoré la pièce, etc., vient en fait d'une histoire vécue quand il était en tournée avec un troupe. Et il y avait pas mal d'enfants dans le théâtre et il les avait invités à prendre le thé. Et il avait acheté des gâteaux et rangé sa chambre et acheté des fleurs et ils ne sont pas venus.
Ils ne sont pas venus. Ah oui, donc c'est vrai, c'est une histoire vraie au départ.
Donc les déceptions ont continué longtemps.
Et il raconte aussi un épisode tragique dans le livre
Autour du monde.
Il raconte un Noël où le seul cadeau qu'il recevait dans l'orphelinat, c'était une orange. Et lui, il se faisait une joie d'avoir cette unique orange. Il l'anticipait depuis des semaines, parce qu'ils n'avaient pas de droit à des fruits frais. Et la veille, je crois, de Noël, il fait une bêtise. Et on le punit, on ne lui donne pas cette orange. Donc il a ce souvenir poignant d'enfant privé d'une orange. Et il se trouve que nous, petits-enfants de Charlie Chaplin, avions des montagnes de cadeaux sous le sapin de Noël. Et il détestait ces Noëls-là.
Ah,
il trouvait ça probablement un peu obscène. Et il se trouve qu'il est mort la nuit de Noël. Donc c'était encore une manière à lui de partir sur une pirouette.
Thank you.
C'est la fin de ce voyage autour du mythe de Charlot. Donc merci à tous, merci à José Moore pour Charlot, histoire d'un mythe avec Daniel Banda, c'est chez Flammarion dans la collection Chants Arts. Merci à Charlie Sistovaris, qui est le petit-fils de Charlie Chaplin. Merci également à Kate Guyonvard du Bureau Chaplin. À signaler également Charlie Chaplin's Footlights, c'est aux éditions du Seuil, suivi d'un texte de David Robinson, Le monde de Lamplight. Carnet Nomade, Olivier Dupré à la technique, Thierry Beauchamp à la coordination, Vincent Deck à la réalisation, Colette Fellouz, retrouvons-nous samedi prochain pour un nouveau carnet autour de l'Afrique fantôme. Ce sera le dernier carnet 2014, l'Afrique fantôme, un texte culte de Michel Léris. Vous pouvez podcaster ce carnet nomade sur le site de France Culture. Je vous souhaite à tous un très beau Noël. Et tout de suite, retrouvez le rendez-vous du samedi noir.